dans la période coloniale, c'est les droits en tant que citoyens qui ne seront pas reconnus. Donc, que ce soit par la politique de l'assimilation qui a été utilisée par des pays comme la France, ou la politique de l'indirect rule utilisée par la Grande-Bretagne, au bout du chemin, la discrimination fait de lui un homme qui n'est entré dans l'histoire qu'au moment de son contact avec le monde européen. Et donc, pour que l'Africain devienne un citoyen, devienne un homme et sortir de ce qui était considéré comme la barbarie et le paganisme, il fallait qu'il se débarrasse de son identité culturelle. Il fallait qu'il acquiert celle de l'autre. Donc, nous sommes ici en position de négation. Si vous voulez devenir citoyen français, ben voilà la liste. Vous allez apprendre beaucoup de choses et vous allez devenir un bon petit Gaulois. Alors, ces deux périodes-là pourraient donc, si on veut, du point de vue africain, être caractérisées par le monopole des traits européocentristes sur l'Afrique et les Africains. C'est-à-dire que, au lieu de dialoguer, il n'y avait pas de dialogue, le monologue culturel était la règle. Et pendant ces deux époques, la culture n'étant pas considérée comme l'ensemble des traits distinctifs, spirituels, matériels, intellectuels et affectifs qui caractérisent chaque société ou groupe social, et que cette culture englobe, outre les arts et les lettres, les modes de vie, les façons de faire ensemble, de vivre ensemble, les droits fondamentaux de l'être humain, les systèmes de valeurs, les traditions et les croyances, puisque la culture n'était pas perçue comme ça. C'était d'un côté la culture, de l'autre côté la nuit des temps. L'Africain est devenu ce que un écrivain britannique célèbre avait appelé le fardeau de l'homme blanc. Et il fallait donc le sortir de l'obscurité et le mener vers la civilisation avec un grand C. Cette discrimination culturelle touche réellement à l'essentiel. En effet, en déniant aux populations africaines leur identité culturelle, c'est-à-dire l'ensemble des références ethniques, linguistiques, religieuses ou autres, qui fondent l'identification consciente ou inconsciente de chaque individu à son groupe social, l'on encapsule la culture. Et toutes les cultures africaines vont devenir plus ou moins figées, parce que les Africains, pour se protéger, les populations, pour se protéger, vont s'arc-bouter sur ce qui leur reste d'authentique. Ils vont le figer et lui imposer une essence immuable. Alors que toute culture est obligatoirement évolutive, mais quand vous êtes dominé, et quand on veut vous changer, quand on veut faire de la décalcomanie avec vous, au lieu de laisser la culture évoluer, vous vous repliez, vous faites l'escargot, vous vous retirez dans votre coquille et vous laissez passer l'orage. Et vous encapsulez tout ce qui est propre à vous, tout ce qui détermine votre vision du monde, et vous dites, ça là, ils ne vont pas me le prendre. Mais ce faisant, il y a tout un processus qui est bloqué et vous pouvez transformer cette culture en une culture de musée. Et donc là, on encapsule les cultures qui se figent, mais comme je l'ai dit, c'est une arme. Face à la discrimination culturelle, la réaction des populations pendant longtemps a consisté à se méfier de l'évolution des appartenances multiples, alors que ce sont des populations qui vivent côte à côte, le Yoruba, le Igbo, le Wolof, etc., et qu'il y a un système de vases communicants À partir du moment où, avec la colonisation, le rideau tombe, puisque la même population va être coupée, une partie va être anglophone, parce que ce sont les Britanniques.